Chapitre 11. Est-ce bien une faute? Un jour, Jeannette se hasarda à questionner Cécile. « Mademoiselle, lui dit-elle, jusqu'à présent je m'étais flattée d'être honorée de votre amitié et surtout de votre confiance intime. Cependant, je crains de ne m'en être pas rendue digne autant que je le désirerais. » Cécile la regarde attentivement et lui demande d'un air distrait pourquoi elle a cette crainte. « C'est que, mademoiselle, pardon de ma témérité, mais je crois que mademoiselle a des chagrins dont j'ignore la source. »« Des chagrins, Jeannette? Ah oui, j'en ai. N'ai-je pas perdu mon père, ma mère, toute ma fortune ?»« Pour la fortune, mademoiselle a trop de philosophie pour la regretter. Quant à la perte de monsieur et de madame d'Hérenville, elle est irréparable sans doute. » Mais je pense que près de 3 années doivent en calmer l'amertume. Jamais, Jeannette, jamais! Si telle est la cause de votre mélancolie, je la respecterai, mademoiselle, et je ne vous accablerai plus de questions importunes. Importune? Elle lui prend la main. Mon amie peut-elle employer ce mot avec moi? Il me paraît pourtant juste, mademoiselle, car je connais votre cœur, votre franchise, et je crois m'apercevoir que vous me cachez quelques secrets. Il est si difficile aux âmes grandes de déguiser quelque chose. Ah, Jeannette, ne m'interroge pas. Je ne me suis donc point trompée, mademoiselle, et j'ai donc perdu votre confiance. Jeannette, il est de ces secrets dont le cœur seul doit rester dépositaire, quand leur publicité ne peut mener au bonheur. Il est toujours humiliant de faire l'aveu d'une faiblesse. D'une faiblesse? Ô ciel, quel mot employer, mon amie? En serait-elle capable? Jeannette, tu vois ma honte, la rougeur qui couvre mon front. Laisse-moi, laisse-moi. Que je vous laisse, Cécile, quand vous avez des chagrins? Non, non, je ne vous en parlerai jamais, cachez-les, renfermez-les toujours dans votre cœur, ces secrets impénétrables. Je ne veux plus les connaître, mais je prétends en adoucir la peine. Je veux vous consoler et... Mademoiselle, ou vous me chasserez d'auprès de vous, ou je parviendrai à vous rendre la sérénité qui doit être le partage de l'innocence. L'innocence! Quel mot as-tu prononcé? Cécile, après cette exclamation, mit les deux mains sur son front et se retira dans une petite pièce attenante à la chambre de Jeannette. Jeannette resta tout étonnée, ne sachant que penser de Cécile, flottant entre 1000 soupçons qui se détruisirent tous les uns par les autres et désespérée du peu de confiance que lui témoignait son amie. Cécile rentra au bout d'une heure et changea la conversation de manière que Jeannette ne sut et ne put deviner rien. Quelques jours se passèrent et Jeannette remarqua que la douleur de Cécile allait toujours en augmentant. Elle s'enfermait seule, lisait, parlait souvent à haute voix et paraissait se plaindre amèrement. Cet état fit tant de peine à Jeannette que, malgré sa ferme résolution de respecter les secrets de Cécile, elle se promit de faire tout pour les pénétrer. Cécile n'était plus une enfant, ni même une très jeune personne. Cécile avait 22 ans. On ne pouvait la soupçonner d'une étourderie indigne de son âge, ni de ses principes. Quelle était donc la cause de sa profonde mélancolie ? Un jour que Cécile était sortie et que Jeannette était seule à la maison, la nuit commençait à obscurcir les objets, lorsqu'elle vit entrer un homme bien mis qui lui demanda si ce n'était point ici la demeure de mademoiselle d'Ascourt. C'était un nom qu'avait pris Cécile pour cacher le sien, qui était très connu à Paris. « Oui, monsieur, lui répond Jeannette, qui peut à peine distinguer ses traits. Qu'y a-t-il pour votre service ?» Je viens de la part de madame de Saint-Albin chercher le voile de dentelle qu'elle lui a donné à raccommoder. Voici sa lettre. L'inconnu cherche la lettre de la personne qui l'envoie, il ne la trouve pas. Il fouille dans plusieurs poches, remue 20 papiers, en tire d'autres et donne enfin à Jeannette une lettre qui l'autorise à remettre le voile. L'inconnu donne l'argent convenu et se retire. Jeannette se procure de la lumière, se remet à son travail. Cécile revient, apprend indifféremment que madame de Saint-Albin a envoyé et, toujours plongée dans sa tristesse, elle s'approche de la lumière, prend un livre et lit. Un léger meuble de femme tombe de dessus la table, Cécile se baisse pour le ramasser. Elle aperçoit un papier qui lui semble inconnu. Elle le prend, jette les yeux dessus et s'écrie « Ciel, quelle illusion! Il est donc venu ?»« Qui, mademoiselle ?»« Il est venu, sans doute. C'est bien là, oui, c'est bien là son écriture. Par quel étrange événement ce papier se trouve-t-il ici ?»« Je l'ignore, mademoiselle, à moins que ce ne soit le monsieur de ce soir qui l'ait laissé tomber de sa poche en cherchant la lettre de madame de Saint-Albin. » « Que dis-tu, un monsieur ? Grand ? Grand ? Bien fait ? Il me l'a paru. 30 ans environ, brun et de beaux traits. Je l'ai peu remarqué, le jour tombé. C'est lui ! Oh, c'est lui ! Cher Saint-Ange !» Jeannette se tait, elle observe. Elle attend l'explication de cette énigme. Cécile lit avidement le papier, puis elle s'écrie de nouveau. « Jeannette ! Oh, Jeannette ! Il m'aime toujours ! Toujours, Jeannette ! Tiens, vois !» Elle lit. « Oncle injuste et barbare, à qui je dois la perte de mon repos et de ma liberté, quand cesserez-vous de me persécuter ? Et quoi, vous voulez, vous exigez que je garde ma main pour l'enfant du malheur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu ? Non, monsieur ! Tant que mon cœur existera dans ma poitrine, il ne battra que pour Mademoiselle Saint-Brice. Mademoiselle Saint-Brice, interrompt Cécile hors d'elle-même. Il y a bien là Mademoiselle Saint-Brice. Elle continue de lire. Vous ne savez pas, vous ne connaîtrez jamais l'intérêt puissant qui m'attache à cette femme accomplie. C'est le lien de la nature, de l'amour, de tous les sentiments les plus forts. Et jamais la cupidité, la barbarie. Cécile n'en peut lire davantage. « Eh bien, Jeannette, dit-elle, que penses-tu de cette lettre qui n'a pas terminé, comme tu vois, car il en est resté à ces mots, et jamais la cupidité, la barbarie ? Ce n'est sans doute que ce qu'on appelle un brouillon de lettres dont il n'était pas content et qu'il aura réécrite à son oncle. Tu vois qu'il m'aime toujours. Mademoiselle, pardon, vous avez la bonté de me consulter comme si je savais de quoi il est question, comme si je connaissais vos liaisons avec cet étranger. Mademoiselle a sans doute une autre confidente que moi. Il n'y a que cette confidente que mademoiselle puisse consulter là-dessus. Oh, Jeannette, comme tu me fais rougir de mon imprudente exclamation. Je ne pensais pas. L'excès de l'amour, du délire, du malheur. Daigne m'excuser, Jeannette, si je ne t'ai pas ouvert plus tôt mon cœur. Toi seule étais digne d'y lire, mais quand on s'est avili une fois à ses propres yeux, combien il est dur de publier sa honte et son déshonneur. Est-ce publié que de confier à une tendre amie ? L'amitié, tout aveugle qu'elle puisse être, ne doit pas pardonner ma faute. Elle est trop grave, elle est trop avilissante pour mon sexe, dont j'aurais dû montrer l'exemple et le modèle. Vous avez donc fait une faute, imprudente Cécile ? « Oh oui, appelle-moi imprudente, ma chère Jeannette. Arme-toi de toute ta sévérité pour me punir, pour m'humilier autant que je le mérite. Voilà ce que j'appréhendais de ta part et voilà ce que je suis en état de supporter aujourd'hui. Prends sur moi dorénavant l'ascendant que doit avoir la vertu sur le crime et méprise-moi comme une de ces viles créatures qui ont foulé aux pieds l'honneur et la vertu. Quelle exagération, mon ami ! Me persuaderez-vous jamais que vous vous soyez dégradé à ce point ? Si je devine votre faute, elle est grave sans doute, mais elle est si naturelle, si pardonnable à un cœur sensible, qu'il faudrait bien de la rigueur pour ne pas l'excuser. Jeannette, as-tu jamais aimé ? Mademoiselle, cette funeste passion de l'amour n'est pas encore, heureusement pour moi, entrée dans mon cœur. Ton cœur est donc de fer ? Il est sans doute aussi sensible que les autres, mais, habitué à la mélancolie, il n'a pas apparemment rencontré encore l'objet qui doit l'attendrir. Que ne suis-je restée à Paris, Jeannette ? Je n'y aurais pas trouvé l'homme dangereux qui m'a subjuguée. Mais aussi, combien il est aimable, Jeannette ! Tu l'as vu ? N'est-ce pas qu'il est bien fait pour triompher du cœur le plus inflexible ? Je vous répète, mademoiselle, que je l'ai à peine remarqué. » À peine remarqué, à peine, Saint-Ange ! Ah, Jeannette, que tu es heureuse d'avoir cette insensibilité ! C'est donc ce particulier qui, ce soir ? Lui-même, Jeannette, apprends tout et blâme ensuite ta malheureuse amie de s'être laissée séduire par tant de perfection. Jeannette brûlait de connaître le secret de Cécile, et Cécile, qui venait d'éclater imprudemment, n'avait plus de motif pour refuser à son amie cette preuve de confiance. En conséquence, Cécile s'approcha de Jeannette et, après avoir lu encore une fois, en soupirant, la lettre commencée de Saint-Ange, elle lui fit le récit suivant qui dut bien étonner l'innocente Jeannette.